Bonjour amis auditeurs et bienvenue dans notre émission sur les Pères de l'Église. Déjà depuis quelques semaines, nous avons commencé notre lecture du livre de la Genèse avec Saint Jean Chrysostome comme commentateur. Nous sommes aujourd'hui à la sixième homélie de son recueil et Jean Chrysostome prend pour son texte ce verset 14 du chapitre 1 de la Genèse. Dieu dit que des corps de lumière soient faits dans le firmament du ciel et qu'ils éclairent la terre, afin qu'ils séparent le jour et la nuit et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les saisons, les jours et les années. D'abord, il convient de vous rappeler ce qui vient d'être lu. Et Dieu dit que des corps de lumière soient faits dans le ciel et qu'ils éclairent la terre, afin qu'ils séparent le jour et la nuit et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les saisons, qu'ils luisent dans le firmament du ciel et qu'ils éclairent la terre. Et cela fut fait ainsi. Hier, le saint prophète Moïse nous apprit de quelle manière le Créateur de l'univers avait embelli la terre qui d'abord était brute et informe. Il l'appara d'une infinité de plantes, de fleurs et d'arbres. Et aujourd'hui, l'écrivain sacré va nous parler de la décoration du ciel. Car de même que la terre s'embellit par ses propres productions, le Seigneur a donné au firmament un éclat plus vif et plus brillant par la variété des astres dont il l'a parsemé et surtout par la création de deux grands corps lumineux, le soleil et la lune. Et Dieu fit, dit l'Écriture, deux grands corps lumineux, l'un plus grand pour présider au jour, et l'autre moindre pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Admirez ici la sagesse du divin ouvrier. Il dit une parole, et soudain le soleil est créé. Le soleil, cet astre admirable, que Moïse appelle un grand luminaire, et qu'il dit avoir été fait pour présider au jour. C'est en effet de cet astre que le jour emprunte ses clartés, et ce de ses rayons et de sa splendeur qu'il ruisselle lui-même d'éclat et de lumière. Chaque jour, il déploie à nos regards sa ravissante beauté, et dès qu'il paraît à l'horizon, il invite tous les hommes à reprendre leurs travaux. Le saint roi David, parlant de la beauté du soleil, compare cet astre à un époux qui sort de son lit nuptial. Il s'élance, dit-il encore, comme un géant dans sa carrière. Il part des extrémités de l'aurore et il s'abaisse aux bornes du couchant. Quelle sublime image de la splendeur du soleil et de la rapidité de sa course. Car en nous disant qu'il part des extrémités de l'aurore et qu'il s'abaisse aux bornes du couchant, le psalmiste nous marque qu'il parcourt l'univers comme en un instant et qu'il répand sa lumière et ses bienfaits d'une frontière du monde à l'autre. Tantôt il réchauffe la terre et en dissipe l'humidité, et tantôt il la dessèche et la brûle. En un mot, les services qu'il nous rend sont aussi nombreux que variés, et telle est l'excellence de ce corps céleste que nous ne saurions le louer dignement. Mais ni mes paroles, ni ce pompeux éloge n'ont pour but de concentrer votre admiration sur cet astre. Je veux, au contraire, mes chers frères, que vous vous éleviez plus haut et que de la créature vous remontiez jusqu'au Créateur. Car plus le soleil est brillant et plus est excellent celui qui a créé le soleil. Mais les gentils qui admirent comme nous cet astre n'ont point porté leur vue plus haut et n'ont point loué le Créateur. Ils se sont arrêtés à la créature et ils lui ont rendu les honneurs divins. C'est pourquoi l'apôtre a dit qu'ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. C'étaient de véritables insensés qui n'ont pu reconnaître le Créateur en ses créatures et qui sont tombés dans un si étrange égarement qu'ils ont mis la créature à la place du Créateur. Ce n'est pas que la lune ne nous soit merveilleusement utile, puisqu'elle dissipe les ténèbres de la nuit et remplit presque les mêmes fonctions que le soleil. Celui-ci a été créé pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Or, que signifie cette expression « présider au jour et présider à la nuit » ? Elle marque, selon l'Écriture, que le soleil illumine le jour du feu de ses clartés et que la lune, en dissipant les ténèbres de la nuit, aide les hommes par sa douce lumière dans l'accomplissement de leurs travaux. En effet, le voyageur poursuit sa route avec plus de confiance. Le pilote dirige mieux son navire sur l'immensité des mers, et chacun vaque sans crainte à ses travaux et à ses occupations. Après vous avoir fait ainsi connaître l'utilité de ces deux grands luminaires, l'écrivain sacré ajoute que Dieu fit aussi les étoiles et qu'il les plaça dans le ciel pour luire sur la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ces paroles nous font connaître quel a été le dessein de Dieu en créant les étoiles. Il les a placées, dit Moïse, dans le firmament du ciel. Qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il les a clouées? Non, certes, puisque nous les voyons franchir en un instant des espaces immenses et accomplir par un mouvement incessant les diverses révolutions que le Seigneur leur a tracées. Quel est donc le sens de cette expression « il les plaça » ? Elle signifie qu'il leur assigna le ciel pour demeure. C'est ainsi que l'Écriture nous dira également que Dieu plaça Adam dans le paradis terrestre. Il ne l'y fixa pas immuablement, mais il l'y plaça pour qu'il l'habite. Et de même, nous disons que le Seigneur a voulu que les étoiles soient comme attachées à la voûte du firmament, afin que du haut du ciel, elles puissent éclairer la terre. Or, je vous le demande, mes chers frères, les mailles de nos prairies et les fleurs de nos jardins sont-ils aussi beaux que le ciel lorsque, au milieu de la nuit, ils scintillent du feu des étoiles ? La brillante variété de ces astres l'embellit et le parsème de fleurs étincelantes qui nous envoie une abondante lumière. Car les étoiles ont été créées pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit. Déjà, cette observation a été faite spécialement au sujet du soleil et de la lune. Mais ici, Moïse, après nous avoir révélé la création de ces deux grands corps de lumière et celle des étoiles, ajoute en parlant de tous que Dieu les fit pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Si les étoiles ne paraissent point pendant le jour, c'est que l'éclat du soleil les voile à nos regards, et de même le soleil ne brille point pendant la nuit, parce que la lumière de la lune suffit pour dissiper les ténèbres. Au reste, tous les astres demeurent dans les limites qui leur sont tracées. Ils ne s'en écartent point, et chacun d'eux obéit docilement aux ordres du Seigneur et remplit son ministère. Mais qui expliquerait tous les autres avantages que procurent à l'homme le soleil, la lune et les étoiles ? Ils servent de signes, dit l'Écriture, pour marquer les temps et les jours et les années. Que signifient donc ces paroles « et les temps et les jours et les années » ? L'écrivain sacré a voulu nous apprendre que le cours des astres règle pour nous celui des temps, ou saisons, que leur révolution journalière amène pour nous le jour et la nuit, et que leur périodicité désigne celle des années. Ces observations suffisent à tous nos besoins, et en effet, le pilote qui connaît le cours des astres et qui observe le ciel s'embarque sur la foi de ses calculs, traverse les mers et, dans une nuit profonde, se guide sur la vue des étoiles, en sorte que par elle, il conduit à bon port son navire et tous ses passagers. Ainsi encore, le cours des astres indique au laboureur la saison propice à ses travaux. Il sait quand il doit ensemencer la terre, lui donner les divers labours et préparer sa faucille pour moissonner ses grains. Ajoutons aussi que la connaissance des temps, le calcul des jours et le cycle des années nous sont d'un usage journalier et infini, et les secours que nous en retirons pour notre bien-être sont si nombreux qu'il serait impossible de les énumérer exactement. Le peu que j'en ai dit suffit à nous en donner une haute idée, et après avoir admiré les créatures, ne négligeons point d'adorer et de célébrer le Créateur. Oui, louons son ineffable bonté envers nous, puisqu'il n'a créé le monde que pour l'homme, et que bientôt il va l'y introduire comme le roi et le maître de toutes les créatures. Et Dieu vit, dit l'Écriture, que cela était bon. À chaque jour de la création, l'écrivain sacré observe que Dieu approuva son œuvre, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui osent la critiquer. Tel est en effet, comme le prouve le contexte, le but de Moïse. Autrement, il aurait suffi de dire en général que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais parce que le Seigneur connaît l'infirmité de l'esprit humain, il a voulu louer séparément chacun de ses ouvrages, afin de nous faire connaître la souveraine sagesse et l'ineffable bonté qui ont présidé à leur création. Septième homélie. Et Dieu dit que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans l'eau et des oiseaux qui volent sur la terre, sous le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu créa donc les grands poissons et tous les animaux qui ont la vie et le mouvement, que les eaux produisirent chacune selon leur espèce. Et Dieu dit que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans l'eau et des oiseaux qui volent sur la terre, sous le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Mais quelle parole, je vous le demande, pourrait raconter dignement ce prodige ? Et quelle langue suffirait à louer cette œuvre d'un Dieu créateur ? Il avait dit seulement que la terre produise des plantes, et soudain la terre s'était couverte des plus riches productions. Et aujourd'hui, il dit que les eaux produisent. Ces deux commandements furent suivis des mêmes effets. De même qu'à son premier ordre que la terre produise, La terre avait enfanté les plantes et les fleurs, les moissons et toutes les autres productions si variées et si nombreuses. Ainsi, à ce second ordre, on vit apparaître les poissons et les oiseaux en si grand nombre qu'on ne saurait les compter. Mais autant la parole du Seigneur est brève et concise, autant les espèces des poissons sont nombreuses et variées. Et ne vous étonnez pas, mes chers frères, puisque c'est la parole de Dieu et que cette parole est toujours efficace et créatrice. Vous voyez maintenant comment toutes les créatures ont été tirées du néant. Vous voyez aussi avec quelle bonté Dieu nous révèle la suite de ses œuvres et avec quelle condescendance il se proportionne à notre faiblesse. En effet, comment aurions-nous pu jamais connaître tous ces détails de la création si le Seigneur n'avait daigné les révéler aux hommes par la bouche de son prophète ? Si nous savons donc aujourd'hui quel ordre Dieu a donné dans la création et nous admirons cette parole créatrice qui commande au néant et qui donne l'être à tant de créatures différentes. Et cependant, il se rencontre quelques insensés qui, après ces belles instructions, osent encore se dire incrédules et qui ne veulent pas reconnaître que Dieu a créé le monde. Ils disent les uns que le hasard a tout fait et les autres qu'une matière préexistante a tout produit. Mais voyez combien cette illusion du démon est dangereuse et comment il abuse de la simplicité de ceux qui se laissent séduire. C'est pour nous préserver d'un semblable malheur que le saint prophète, inspiré par l'Esprit-Saint, nous raconte avec tant d'exactitude tout l'ensemble de la création, en sorte que nous en connaissons manifestement l'ordre et la suite, et que nous savons comment chaque créature a été produite. Mais si Dieu n'avait pas eu un soin aussi spécial de notre salut, et s'il n'avait dirigé lui-même la langue de son prophète, celui-ci se serait contenté de dire « Dieu créa le ciel et la terre, la mer et les animaux », et il n'aurait pas jugé nécessaire de distinguer les jours de la création, ni de marquer séparément les œuvres de chacun d'eux. Mais pour ôter toute excuse aux hommes ingrats et aveuglés par leurs préjugés, Moïse distingue clairement l'ordre des faits et le nombre des jours, et il nous instruit avec tant de soin qu'il nous est comme impossible de méconnaître la vérité et de tomber dans l'erreur des païens. Ceux-ci ne débutent que les rêves de leur imagination, tandis que nous savons combien le Seigneur notre Dieu est grand et puissant. Et Dieu dit que la terre produise les animaux vivants, chacun selon son espèce, les animaux domestiques, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre selon leurs différentes espèces. Et il en fut ainsi. Considérez donc quel nouveau service nous rend la terre et comment elle obéit à ce second ordre du Seigneur. D'abord, elle avait produit les germes de toutes les plantes et maintenant elle enfante les animaux vivants, les quadrupèdes et les reptiles, les animaux domestiques et les bêtes sauvages. Mais ici se confirme ce que je vous avais déjà déclaré, à savoir que dans les œuvres de la création, le Seigneur s'est proposé tantôt notre utilité et tantôt sa propre gloire. Il a voulu que la vue de tant de créatures nous fasse admirer la puissance du Créateur et nous révèle que sa bonté et sa sagesse infinie les ont faits pour l'homme qu'il devait bientôt créer. C'est ainsi que Dieu, après avoir produit toutes les créatures, chacune en son rang et sa perfection, dressa l'univers comme une grande table chargée de toutes sortes de mets et resplendissant d'un luxe princier et d'une magnificence vraiment royale. C'est alors aussi qu'il créa l'homme qui devait jouir de toutes ses richesses. Il lui donna autorité sur toute la création visible. Et pour montrer combien il surpassait en dignité toutes les autres créatures, il les soumit à son empire et à sa puissance. Mais pour ne point prolonger ce discours outre mesure, je remets à demain tout ce qui concerne l'admirable formation de l'homme, cet être doué de vie et de raison, et je termine, comme d'habitude, par une instruction morale. Retenez donc fidèlement mes paroles, afin que la vue des créatures vous excite à glorifier le Créateur. Sans doute, nous ne pouvons ni pénétrer les secrets divins, ni comprendre toutes les merveilles de la création. Mais cette impuissance même, loin de nous être une occasion d'incrédulité, doit nous animer davantage à célébrer la gloire du Seigneur. La faiblesse de notre raison et la petitesse de notre esprit ne peuvent qu'accroître en nous l'idée de la grandeur divine et la puissance du Créateur nous paraît d'autant plus souveraine que ses œuvres nous sont incompréhensibles. Voilà, chers amis auditeurs, c'est le récit de la création au quatrième et au cinquième jour, avec Saint Jean Chrysostome comme commentateur. Dans le texte grec, il n'est pas seulement dit que cela était bon, mais cela était beau, kalos en grec. Et donc c'est cette beauté qui séduit l'homme et qui peut lui révéler donc la présence d'un Dieu, d'un esprit supérieur, hein, comme nous le disait aussi Jean Chrysostome dans ce passage. Le Créateur, qu'il soit béni par-dessus tout. Amen. C'est une citation de Romains chapitre 1. À bientôt, chers auditeurs, pour continuer à la fois dans ce récit de la création et dans le livre de la Genèse. Au revoir.
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.